Alors bonjour à vous tous, c'est vrai que j'ai beaucoup de plaisir à être là. Je suis touché de voir qu'il n'y en a pas beaucoup qui me connaissent parce que finalement de temps en temps je viens quand même ici, à d'autres, enfin peut-être en d'autres circonstances aussi, mais ça veut dire que ça veut dire qu'il y a du renouveau aussi, hein, et c'est bon signe, c'est bon signe. J'ai du plaisir parce que j'aime la communion fraternelle au sens large du terme, le visage différent de l'Église sur la surface de la terre. C'est tellement important, moi j'ai toujours cette vision un peu de l'Église sur la terre entière. Hein, ce n'est pas ma communauté, c'est l'Église au sens très large. Et puis des fois, il y a des gens qui me reprochent d'être un peu trop large, mais ça c'est une autre histoire. Ouais. J'aime aussi l'introduction de Frédéric qui dit que la louange c'est aussi dans la nature. Moi je suis un contemplatif, je me promène beaucoup dans la nature, et c'est vrai que c'est des moments pour moi de louange intense, intense. Et puis à chaque saison, il y a des beautés à voir, on ne doit pas passer à côté. Voilà. Alors ce matin, j'ai choisi de vous parler d'un seul verset de la Bible. Peut-être que je ferai référence à d'autres, mais on va se focaliser sur un seul verset qui se trouve dans le psaume 33, c'est le verset 22. C'est-à-dire, alors je vais le lire dans trois versions différentes, la première, seconde, qui nous dit ceci: « Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. » Et puis la version Parole de vie: « Seigneur, que ton amour repose sur nous, comme nous l'espérons de toi. » Et la troisième version, version Darby: « Que ta bonté, ô Éternel, soit sur nous, selon que nous nous sommes attendus à toi. » Alors, si j'ai choisi de vous parler de ce verset, c'est parce que je le médite à peu près depuis 47 ans. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Encore aujourd'hui, il m'interpelle et m'encourage, et cela, c'est un miracle de la parole de Dieu, que les versets nous apportent toujours quelque chose de nouveau, une nouvelle fraîcheur. Hein, ce n'est pas comme le journal quotidien. Tous les jours, il est quotidien. Une parole vivante, opérante sur la durée des temps. Alors vous savez que dans la pratique de la religion juive, on a de coutume de ruminer un verset, et puis on peut le ruminer toute une vie. Cela peut nous paraître des fois un peu exagéré, mais j'ai l'impression que dans nos traditions, de nos communautés chrétiennes évangéliques, nous avons tendance à pas assez ruminer, hein, et ainsi avaler tout rond. Puis les médecins disent que ce n'est pas tellement bon pour la santé. Hein? Oui. Alors aujourd'hui, je vous propose de ruminer un peu plus que d'habitude. Et si je médite ce verset depuis 47 ans, ce n'est pas pour imiter les juifs orthodoxes, mais plus simplement parce que, tout simplement, il figurait sur notre faire-part de mariage. Voilà. Et j'ai choisi aujourd'hui de vous partager sous ces trois versions différentes. Et la première nous parle donc de grâce, alors que les deux autres nous parlent d'amour et de bonté. Oui, la grâce du Seigneur qu'il nous offre au quotidien est une démonstration de la grandeur de son amour et de sa bonté pour tous les humains en tout temps. Les deux premières références nous parlent d'espérance, en rapport avec cette grâce et avec cet amour. Dans ce texte biblique, le verbe « espérer » voulait avant tout dire « attendre ». La troisième version nous parle en effet d'attente. « Que ta bonté, ô Éternel, soit sur nous, selon que nous nous sommes attendus à toi. » Alors, précisons bien les choses. Nous n'espérons pas sur sa grâce et son amour comme on espère gagner à la loterie. Nous espérons sur sa grâce et son amour dans une attente accompagnée d'une espérance. Chaque fois que les épreuves de la vie sont si difficiles que nous nous demandons où est Dieu, nous a-t-il oublié? Eh bien, relisons ce verset avec confiance. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Toute attente, même accompagnée d'une promesse des plus agréables, reste une attente avec son lot d'impatience et de doute. Dans le livre des Cantiques des Cantiques, un livre sur lequel on ne prêche pas beaucoup, mais j'aime bien le livre des Cantiques des Cantiques. Il est absolument magnifique. Dans le livre des Cantiques des Cantiques, au chapitre 5, verset 6, nous discernons combien l'attente de l'épouse, qui représente également, comme nous le savons, l'Église du Christ, reste à la fois une joie intense, mélangée de doute. Je lis ce verset. « J'ouvre à mon bien-aimé, mais il est parti. Il n'est plus là. Je sors à sa poursuite, je le cherche sans le trouver. » J'ai beau l'appeler, pas de réponse. Parfois, certaines attentes sont tellement longues que le découragement n'est jamais bien loin. Et alors, le doute s'installe. Être chrétien ne nous met pas à l'abri des difficultés comme le doute. Oui, nous n'avons pas à douter de l'amour de Dieu pour nous, mais parfois, dans les épreuves, eh bien, nous pouvons arriver à douter de notre force d'aimer, de notre capacité à aimer. Alors, à partir de cette réflexion, deux possibilités s'offrent à nous. Sombrer dans l'inquiétude, le désespoir, et considérer qu'il n'est pas si bon que cela pour reprendre une formule d'un autre verset, pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble, ou entrer dans une confiance, dans une intimité avec le Père Céleste, et nous laisser aimer tel que nous sommes, avec nos doutes. Retrouver cette dépendance totale du nourrisson dans les bras de sa mère ou de son père. J'aime beaucoup cette image, le nourrisson dans les bras de sa mère, voire au sein maternel. Qu'est-ce qu'il comprend de la vie ? Il est simplement confiant. Relevons le défi que Jésus nous propose. Si c'est le Fils de Dieu qui nous encourage à nous laisser aimer, vous ne pensez pas que nous pouvons lui faire confiance? Si c'est le Fils de Dieu qui nous exhorte à rechercher l'unité, vous ne pensez pas qu'il reste du travail? Si c'est le Fils de Dieu qui sans cesse nous interpelle sur la grave question de la pauvreté, le partage. Vous ne pensez pas que nous avons besoin de revoir nos comportements? Et puis, si c'est le Fils de Dieu qui nous demande de prendre soin de la planète, sujet ô combien d'actualité, mais il y a longtemps dans la Genèse, il nous disait ça, hein, déjà Dieu, hein? Oui. Eh bien, vous ne pensez pas qu'il avait des bonnes raisons? Psaume 133, versets 1 et 2, oui, j'en ai fait allusion, qu'il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est comme le parfum de l'huile précieuse versée sur la tête du grand prêtre Aaron et qui descend jusqu'à sa barbe, puis jusqu'au col de son vêtement. Alors il va avoir une barbe beaucoup plus longue que la mienne, hein, ça prenait du temps pour couler, et puis arriver jusqu'au bas de son vêtement. Nous avons là une magnifique description de l'œuvre du Saint-Esprit capable de sceller tout simplement nos relations fraternelles. Mais disons-le, une telle grâce qui nous est offerte n'est pas pour nous offrir des séances de cocooning. Oui, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Mais bien plus, demeurer ensemble pour construire et propager la paix du Christ, Jésus. Demeurer ensemble pour rechercher sa volonté. Demeurer ensemble, oui, pour construire l'unité du corps de Christ, si indispensable. Cette unité, oui, pour donner finalement envie aux autres d'y participer. C'est tellement important. Demeurer ensemble pour tout simplement prendre soin de notre prochain. Demeurer ensemble et prendre tout simplement nos responsabilités, qui nous sont des fois très personnels, tout en nous encourageant à vivre le quotidien dans la joie et l'espérance. Oui, que ta bonté, ô Éternel, soit sur nous, selon que nous nous sommes attendus à toi. Chrétien de tous les horizons, épouse de Jésus-Christ, voilà une attente active de l'époux qui nous a proposé de vivre au quotidien. Alors, pour y parvenir, nous avons besoin de nous souvenir des bontés, de la grâce nombreuse dont nous avons été les témoins et dont nous sommes les bénéficiaires. Alors là, j'aimerais simplement faire allusion à un très vieux cantique, « Compte les bienfaits de Dieu », que vous connaissez certainement tous. Il y a des vieux cantiques qui nous rasent un peu, des fois, si vous me permettez l'expression, puis il y en a d'autres qui ont encore des valeurs sûres. « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien ils sont grands, combien ils sont nombreux. » Faire le compte des bienfaits de Dieu, ce n'est pas faire un déni sur les difficultés traversées dans la vie, mais au contraire, rester dans cette attente confiance, dans la confiance. Même si nous ne comprenons pas tout, nous pouvons continuer à placer notre confiance en Dieu par rapport à toutes les questions qui nous dépassent. Pas si vous avez des questions qui vous dépassent, moi j'en ai quelques-unes en tout cas. Trop souvent, nous avons une explication à tout et pour tous. Je crois que nous avons besoin de réapprendre à dire « je ne sais pas, mais je fais confiance ». Avancer avec Jésus par la foi, c'est précisément ne pas tout comprendre et ne pas tout savoir. Vous connaissez bien aussi ce verset de 1 Corinthiens 13, verset 12, je lis là dans la version français courant. « À présent, nous ne voyons qu'une image confuse, pareille à celle d'un vieux miroir, mais alors nous verrons face à face. À présent, je ne connais qu'incomplètement, mais alors je connaîtrai Dieu complètement comme lui-même me connaît. » Alors c'est vrai que les miroirs à cette époque, on ne voyait pas grand-chose dedans, vous savez, ce n'était pas comme les nôtres. Oui. Le Seigneur n'est jamais loin de nos chemins détournés. J'ai rencontré, il n'y a pas bien longtemps, une femme qui avait une foi très active et en même temps avait accumulé tous les malheurs de la planète. Oui, ce n'est pas incompatible, malheureusement. C'est des choses qui arrivent. J'ai rapidement compris que cette femme était fâchée avec Dieu. Et je lui ai dit qu'elle avait le droit d'être fâchée et que Jésus comprenait qu'elle soit fâchée. Je lui ai également dit que, malgré la distance qu'elle avait prise avec le Seigneur, lui, il se tenait tout près d'elle. Une autre fois, alors que j'avais 21 ans, ça remonte à assez longtemps, j'effectuais un cours de répétition dans le cadre du service militaire dans un hôpital aux soins intensifs. Alors, je préfère ce lieu-là ou à l'armée que l'autre, hein, que sur le terrain. Ça, c'est aussi ma personnalité. Je ferme la parenthèse. Je me souviens avoir rencontré, dans ces circonstances, une petite grand-maman qui vivait ses derniers moments sur Terre. Je ne savais rien de sa vie. Elle était là, allongée sur un lit de fortune, à l'état végétatif. Je me souviens très bien ce jour avoir été littéralement poussé à poser ma main sur la sienne et lui avoir simplement demandé s'il connaissait Jésus. J'ai alors simplement assisté à un grand rayon de soleil qui a illuminé son visage. 52 ans après, je n'oublie pas cet instant. Je ne sais rien de plus sur la suite de son histoire, mais ce que je peux dire, c'est que Jésus n'était pas loin. Oui, nous ne comprenons pas toujours les voies du Seigneur. Psaume 139, verset 17, qu'il est difficile de te saisir par la pensée, ô Dieu. Il y a tant de points à considérer. Autre version, que tes voies, Seigneur, sont impénétrables. Cela dit, les voies du Seigneur sont peut-être impénétrables, mais il se tient toujours beaucoup plus proche de nous que nous l'imaginons. Cultiver le souvenir des bienfaits du Seigneur quand les choses vont bien, c'est nous donner la chance d'en récolter les fruits quand les choses vont moins bien. Mais cette grâce du Seigneur dont nous parlons va encore plus loin. Il y a des situations où elle est offerte au dernier moment de la vie, à des personnes qui jusque-là n'en avaient pas profité. Alors l'exemple que nous connaissons tous, c'est le brigand sur la croix. Parole de Jésus, je te le déclare, c'est la vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alors, la grâce, par définition, elle est gratuite. Mais n'oublions jamais que Jésus en a payé le prix. Et quel prix ? Prendre conscience de cette réalité nous évitera de dilapider cette grâce comme des enfants gâtés, ou des adultes gâtés, des fois ça arrive aussi. Prendre conscience de cette réalité nous orientera dans la bonne direction. Pour poursuivre cette réflexion, vous pouvez faire des recherches sur, par exemple, Internet, et vous tapez « la grâce qui coûte ». Et vous tomberez alors sur des écrits pas très récents, de par exemple Dietrich Bonhoeffer, que certainement beaucoup connaissent ici, théologien allemand qui est mort dramatiquement pendu sous le régime d'Hitler à la fin de la guerre, parce qu'il s'était farouchement opposé à lui. Vous trouverez des écrits de ce Dietrich Bonhoeffer ô combien édifiant sur cette grâce qui coûte. Je vous donne une citation de Bonhoeffer. « La grâce à bon marché, c'est la justification du péché et non point du pécheur. » Voilà des propos écrits dans un temps particulier qui viennent résonner en nous comme une brûlante actualité. On se sent un peu dans l'actualité avec tout ce qui se passe autour de nous. Encore une autre citation qu'il nous a donnée, que je vous transmets ce matin. Si vous prenez le mauvais train, pardon, il est inutile d'arpenter les couloirs dans la bonne direction. Si vous prenez le mauvais train, il est inutile d'arpenter les couloirs dans la bonne direction. C'est intéressant quand même, ça fait réfléchir. Moi, je trouve que c'est une bonne méditation, ça. Peut-être que si vous retenez ça, c'est déjà pas mal. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. En fait, cette attente dans l'espérance, elle peut intervenir à n'importe quel moment de notre vie. Et en même temps, elle peut nous accompagner tous les jours de notre vie, que ce soit, je dirais, pour un jour ou pour 100 ans. Curieusement, ce ne sont pas forcément les personnes qui proclament souvent haut et fort avoir réussi dans la vie, que l'on trouve beaucoup de place pour accueillir cette grâce du Seigneur, puisque tout va bien, à quoi sert la grâce ? Alors, riches ou pauvres, comment vivre cette grâce au quotidien ? Je crois de tout mon cœur à la réalité d'un Dieu qui nous attend, non pas au virage, mais à l'étape, c'est-à-dire là où nous en sommes, tels que nous sommes, pour nous offrir un temps de grâce. Cette grâce que nous offre Jésus-Christ, elle n'est pas seulement liée au jour de notre rencontre personnelle avec lui, mais elle est une grâce à accueillir au seuil de chaque journée, le matin quand on se lève, comme un cadeau de Dieu d'une valeur inestimable. Une grâce qui va tout simplement nous permettre de faire de cette journée qui nous est offerte une journée pleine d'espérance. C'est ça la foi. J'en arrive à la conclusion. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20. Nous vous en supplions, au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Alors j'aimerais préciser que la réconciliation dont il est fait mention dans ce texte des Écritures n'est pas tant l'idée de parvenir à un accord de paix entre deux adversaires, mais plus précisément celle de recevoir la grâce d'un souverain. Que ce soit là notre prière, Seigneur, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Amen.